foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Chantal Deki Kareo, vous êtes moniale, bouddhiste dans la branche du Tibet, et vous êtes initiative à l'éveil. Vous allez nous expliquer tout cela. Merci d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui. Et je vais vous demander, comme je le fais habituellement, vous venez d'une famille, vous m'avez dit, chrétienne, pratiquante, mais qui à un moment donné a bifurqué.
Oui, je suis née en fait dans une famille catholique, et donc j'ai été élevée, éduquée dans cette religion.
Pratiquante, vous alliez à la messe.
Oui, très pratiquante.
Et puis tout d'un coup, à 15 ans, vos parents ont bifurqué vers une autre représentation du monde,
oui.
Vers une forme de scientologie.
Vers une autre église, en fait, c'était pas du tout la scientologie, ça s'appelait la science chrétienne.
Oui.
Mais donc c'était toujours basé sur la Bible. Mais bon, moi à l'époque j'avais 15 ans et c'est vrai que ça m'a un petit peu, c'était un petit peu difficile pour moi.
D'aller à l'école,
sans changement,
une école du dimanche.
D'aller dans une école du dimanche au lieu d'aller à la messe, et donc je n'ai pas vraiment suivi mes parents à cette époque. Ouais.
Votre père lisait beaucoup, était adepte du yoga et cherchait.
Oui, mon père a cherché en fait toute sa vie. Il lisait des livres, toujours beaucoup de livres, des mystiques. Il a lu tout Jung par exemple. Et donc, il y avait un peu cette tradition dans la famille de discuter beaucoup.
Oui, donner du sens
à
sa vie.
C'est aussi,
ce qui vous anime à chercher.
Oui, c'est bien ce qui m'a conduite au bouddhisme, d'ailleurs. Le fait de chercher un sens à donner à ma vie.
Et vous avez fait des études de psychologie.
Exactement,
dépendamment
oui.
De ça. Donc, psychologie clinique.
Clinique à Toulouse.
Mais pas forcément ensuite une pratique dans cette direction.
Ensuite, non. Quand j'ai terminé mes études, donc j'avais 23 ans et je voyais pas trop comment je pouvais aider les autres juste avec cette expérience d'université.
Donc ensuite, un voyage vers l'Inde.
Le voyage vers l'Inde est venu après, en fait. J'ai rencontré le bouddhisme.
En France déjà, vous étiez de Pyrénées.
Oui. Voilà, j'étais des Pyrénées, j'habitais dans les Pyrénées. Et j'ai entendu parler de ce centre bouddhiste.
Qui existe depuis 40 ans.
Voilà,
c'est
qui
ça.
Existe depuis 40 ans, du côté de Lavaur.
À Marzens.
Oui, à côté de Lavaur, dans le Tarn.
Oui.
Et donc c'est là que j'ai rencontré les enseignements bouddhistes.
Avec, on va dire, un père spirituel ou quelqu'un qui vous a ouvert à l'éveil. On n'aime pas trop le terme de gourou qui est très connoté péjorativement,
oui.
Mais quelqu'un qui vous a
gourou,
écouté.
Oui, et surtout les enseignements, en fait, déjà.
Oui,
hein.
Oui.
Après, bien sûr, j'ai rencontré des maîtres qui m'ont beaucoup inspiré. Et donc, je peux dire que ce sont mes maîtres spirituels, mais c'est surtout les enseignements, en fait, qui sont inspirants et qui répondent aux questions.
D'ailleurs, dans, on peut dire, l'Institut, il y a toute une ouverture à l'éducation universelle.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a des valeurs positives. Vous avez des mots, je crois, de fraternité, de générosité, de patience.
Oui, ce qui est enseigné en fait à l'Institut bouddhiste de Marzens, au Centre bouddhiste de Marzens, c'est le bouddhisme, mais il y a aussi toute une branche des enseignements qui est donnée, qui est plus universelle et qui transmet plutôt des valeurs plutôt que vraiment une pratique ou une connaissance purement bouddhiste, disons, pour s'adapter aussi à des gens qui ont besoin de soutien ou qui sont en recherche, mais qui ne veulent pas forcément ça donne une pratique religieuse ou forcément bouddhiste.
C'est ça, il n'y a pas seulement des moines et des moniales, c'est ouvert à des personnes qui viennent sans forcément avoir des convictions.
Le centre bouddhiste, il est fait pour des personnes qui s'initient au bouddhisme, qui sont bouddhistes, qui veulent en savoir davantage et qui pratiquent. Mais aussi, il y a des initiations, ça s'appelle initiation au bouddhisme, initiation à la méditation. Ou quelquefois, par exemple, l'initiation à la méditation, il y a 80-100 personnes qui viennent.
Pour une journée ou pour une semaine.
Pour un week-end, oui, c'est souvent c'est un week-end. Et qui sont juste intéressés par savoir ce que c'est la méditation. Et qui ne deviennent pas forcément bouddhistes. Qui sont juste intéressés, oui.
Et qui n'ont pas peur de rencontrer les autres, parce que je crois que nous nous étions vus déjà il y a 2 ans à la journée internationale pour vivre en paix, organisée par les tendances, on va dire, soufis du Cheikh Bentounes, mais qui était ouverte à toutes les convictions et toutes les croyances. Osons la rencontre, c'est aussi une marche où nous nous sommes revus cette année, où vous aviez témoigné de votre vie, de votre recherche vers cette éducation universelle.
Oui, en fait, dans notre, disons, fondation, notre organisation, un des piliers, c'est l'interreligieux, c'est les rencontres interreligieuses, interconvictionnelles, comme base, en fait, de l'harmonie et de la paix dans la société, dans le monde.
Alors, la société laïque en France, elle n'est pas du tout en contradiction avec votre spiritualité et votre recherche? C'est ce qu'on dit, on peut avoir une religion, n'importe laquelle, vous disiez, la laïcité en deux mots.
Oui, en fait, la laïcité, c'est la laïcité, disons, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et donc l'État est neutre, mais chacun est libre, dans la mesure où ça ne dérange pas les autres, de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa religion.
Ou de changer de religion.
Ou de changer de religion, oui. Et la pluralité, en général, ce qu'on dit, c'est que pour sa propre pratique, c'est quelque chose de personnel. On en reste avec une pratique qui correspond à notre engagement. Mais au niveau de la société, c'est une richesse, en fait, la pluralité des religions.
Et des communautés.
Des communautés, oui.
Ce qui n'est pas le communautariste, parce qu'on va dire, mais alors, s'il y a un gourou, il y a une secte et on ne peut plus en sortir. Alors que, justement, la laïcité, c'est de permettre de trouver une autre voie et de bifurquer, à certains moments, une reconversion.
Oui, évidemment, oui. De nos jours où il y a tellement d'échanges aussi de philosophies, de personnes, de différentes régions du monde. Donc on a accès à différentes religions, différentes églises. Et bien sûr, il peut arriver que l'on change de voie.
Et comme bouddhiste, comme monial, vous avez pris l'habit? Vous avez, les auditeurs ne voient pas votre robe de couleur particulière. Je ne saurais pas dire si c'est du violet, du parme, mais vous avez pris l'habit après une initiation de quelques années.
Oui, en fait, non, j'ai pris l'habit parce que, en prenant les vœux de monial, donc qui correspondent aux vœux de moine, mais bon, pour les femmes, on dit des vœux de monial, qui sont des vœux comme d'entrer en religion. En fait.
Perpétuels.
Oui, qui sont en vie, en vie. Et donc, on prend aussi les signes d'une personne ordonnée. Et les signes d'une personne ordonnée, c'est qu'on porte les robes, bordeaux.
C'est ça.
Et on se rase la tête. Donc, et aussi, on abandonne des activités d'une personne laïque.
Vous avez changé de nom.
Oui, aussi, on change de nom aussi. Ça fait partie des changements.
Alors, le vôtre, il signifie?
Et donc, mon nom, en fait, de personne ordonnée, c'est Tenzin Deki.
Oui.
Tenzin, c'est le nom du Dalai Lama de qui j'ai pris les vœux. En principe, quand on prend des vœux de personne ordonnée, donc on prend les vœux on prend le nom, le premier nom du maître, donc Tenzin, et mon nom personnel, c'est Deki, qui signifie, en fait, Tenzin, ça veut dire qui détient les enseignements du Bouddha.
Oui.
Et Deki, ça veut dire bonheur et bien-être.
Vous pourriez dire en deux mots, parce que pour les auditeurs catholiques ou chrétiens, les vœux, c'est pauvreté, chasteté et obéissance. Obéissance, vous êtes aussi dans un institut, dans une communauté, et il y a une partie des choix de votre vie que vous remettez, ou que vous, j'allais dire dans les mains, dans la réflexion d'un autre, qui serait peut-être un père spirituel. Il y a une hiérarchie?
Oui, il y a une hiérarchie, oui. Mais bon, disons, la vie de personne ordonnée, bon, pour nous, on peut le dire, est moins stricte, peut-être moins fermée que, par exemple, chez les catholiques.
Ou chez certains catholiques,
c'est possible. Donc, chasteté, pauvreté, obéissance. Enfin, nous, on a beaucoup plus de vœux.
Oui.
On a, au niveau de novice, il y en a 36. Et au niveau de l'ordination complète, il y en a 200 à 300, qui sont beaucoup des règles de conduite. Mais bon, parmi ceux que vous avez cités, donc la chasteté, oui. Après, il y a le fait donc de s'abstenir, de nuire, donc de prendre la vie, de mentir, de voler, dans toutes les règles d'éthique de base, de prendre des antioxydants, ce sont les principaux.
En même temps, vous disiez que c'est peut-être pas aussi formel, aussi dogmatique.
Oui,
il y a une part
aussi
de liberté
de
chacun.
Exactement. Par exemple, bon, après, ça dépend si vous êtes, en tant que moine ou monial, si vous habitez dans une communauté monastique ou pas.
La vie commune.
Et en fait, les communautés monastiques pour les personnes ordonnées bouddhistes en Occident sont déjà assez rares, parce que comme ça n'est pas notre tradition, ces institutions n'existent pas et il faut un peu les créer, les inventer. Et donc c'est un peu plus difficile que si par exemple vous prenez les vœux dans la tradition catholique et les institutions existent déjà, ou dans la tradition bouddhiste si vous êtes en Asie et que les communautés existent déjà, vous vous intégrez dans une communauté, tandis qu'ici il faut les créer, ces communautés. Donc très souvent on vit quand même dans des centres avec des laïcs, et donc on essaie justement de créer ces communautés. Comme je vous le disais, à Lavaur, il y a une communauté de moines, et maintenant nous commençons en fait une communauté de moniales.
On va en parler tout de suite, oui. Mais vous avez une conduite alimentaire également, du jardinage, une pratique de vie?
Non, la conduite alimentaire, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'interdit. Il est recommandé d'être végétarien.
Oui.
Parce que manger de la viande fait qu'on participe à l'action de tuer des êtres. Et donc, vu aussi aujourd'hui les conditions d'élevage, etc., des animaux, donc il est conseillé d'être végétarien, mais ce n'est pas une obligation.
Et dans la journée, de longs temps de silence et de méditation?
Ça dépend des moments aussi, des périodes. On essaie d'avoir le plus possible dans l'année des périodes de retraite. Et donc pendant les périodes de retraite, on peut être en silence complet et s'adonner à la méditation pendant plusieurs heures dans la journée. Et dans d'autres périodes où on a quand même beaucoup de choses à faire, on fait de la méditation le matin, le soir, avec des périodes de silence plus réduites.
C'est pour ça que vous nous avez apporté une phrase musicale, en tout cas ça s'appelle les tantras, pour aider à cette méditation. Vous allez nous en parler, et nous allons écouter un moment cette respiration musicale.
Omo tare tu re soha.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Avec Chantal Dekhi-Kareo, monial bouddhiste, et vous disiez que c'est la musique que nous venons d'écouter, c'est pas forcément un tantra.
Non, cette musique, en fait, c'est un mantra.
Mantra,
voilà.
Pardon.
Voilà.
Oui.
Oui, c'est un mantra, donc c'est comme une formule. Les mantras, c'est en sanskrit, et c'est le mantra de Tara. Tara, c'est une forme féminine du Bouddha. Et donc, ce mantra qui est en sanskrit, c'est comme un appel à... C'est comme le nom de Tara, c'est comme on appelle le nom de Tara.
Alors, vous avez évoqué justement Bouddha, et comme personnage qui vous a particulièrement inspiré, le Dalai Lama. Vous pourriez expliquer pourquoi et en quoi c'est une personne importante pour votre vie?
Oui, le Dalai Lama, c'est une personne importante. D'abord, j'ai reçu mes vœux monastiques de lui, de sa sainteté.
Ici en France, ou vous êtes allé...
J'étais en Inde.
Vous
oui,
étiez en Inde à ce
oui.
moment-là.
Enfin, j'ai rencontré le bouddhisme en France et assez vite, je suis allée en Inde et j'ai pris en fait ses vœux avec le Dalai Lama et d'autres femmes. Donc, à Bodh Gaya, qui est l'endroit où le Bouddha atteint l'éveil et donc qui est un point central de pèlerinage pour les bouddhistes. Et donc... D'abord, j'ai reçu l'ordination du Dalai Lama, et ensuite, le Dalai Lama, c'est vraiment un modèle de paix. C'est vraiment le modèle de quelqu'un, en fait, qui essaie d'être le plus bénéfique possible au plus grand nombre de personnes possibles et qui s'adapte en fonction. C'est aussi un modèle dans la mesure où on voit... Le Dalai Lama est en exil depuis maintenant 60 ans, puisqu'en oui. fait le Tibet est occupé par les communistes chinois depuis 1959, et donc il est en exil. Et quand il parle, pas la moindre trace, il n'exprime pas la moindre trace de haine ou de colère par rapport à ce système qui a quand même donc tué beaucoup de ses compatriotes et...
Qui cherche à éradiquer une forme de spiritualité.
Aussi, oui. Et donc, c'est un modèle dans ce sens. Dans ce sens où il est toujours très positif, où il cherche toujours des solutions qui vont être en prenant en compte les deux côtés. Pas simplement pour, par exemple, les Tibétains, mais aussi pour les Chinois. Et vraiment de façon toujours très positive.
Être en harmonie. Avec les autres et avec la nature.
Exact, oui. Et oui, aussi toujours être... essayer d'être vraiment bénéfique aux autres, oui.
C'est pour ça que votre témoignage lors de la marche Osons la rencontre, pour mieux se connaître, ne pas avoir peur des différences que l'on croit voir chez l'autre en fonction de son appartenance ou de sa race ou de la couleur, mais aussi de voir ce qui nous rassemble comme être humain.
Oui, oui, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la pratique personnelle, c'est quelque chose qui regarde chacun, qu'est-ce qu'on pratique. Mais au niveau de la communauté, donc de la société, c'est important de respecter tout le monde et d'essayer de voir aussi, pas forcément les différences, mais de voir tout ce qui nous unit et de voir ce qui peut en fait créer un monde harmonieux, c'est la compassion, la fraternité et la compassion. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, la compassion. Et donc, ça s'apprend en transformant l'esprit, en éduquant son esprit et en essayant de voir justement comment on est tous similaires, voir les similarités entre les gens. Donc déjà, on peut dire, la façon dont on est tous similaires, c'est que... Nous voulons tous le bonheur et nous ne voulons pas la souffrance. C'est une façon un peu d'entraîner son esprit. Au lieu de voir qu'on est différent, voir en quoi on est semblable. Donc tous, autant que nous sommes, nous voulons être heureux, nous ne voulons pas souffrir. Et en fait, il n'y a aucune raison pour laquelle certains mériteraient d'être heureux et d'autres pas. où certains mériteraient de ne pas souffrir et d'autres pas. Pour chaque être, en fait, sa souffrance est également détestable et son bonheur est également important. Donc on apprend à égaliser et on apprend aussi à voir l'interdépendance, à voir comment, en fait, nous dépendons tous les uns des autres et comment, en fait, nous... Tout ce que nous avons vient des autres. Et si on réfléchit d'une façon personnelle, déjà mon corps vient des autres. Le fait que je sois un être humain décent, hein, vient aussi de l'influence des autres qui m'ont éduqué, qui m'ont tout appris. Tout ce que je sais, les autres me l'ont appris.
Et je me connais à travers le dialogue avec l'autre.
Ouais.
Alors, vous nous avez parlé de l'Institut à Marzins, mais vous avez aussi un autre monastère qui est à Nalamba, n'est-ce pas, et qui existe aussi depuis les années 1980, avec un centre d'études.
Oui.
Vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, donc le monastère de Nalamba, qui se trouve aussi dans la région de Lavaur, a été créé au début des années 80. Et donc, c'est là que j'ai fait mes études, d'ailleurs, après avoir rencontré le bouddhisme. Pendant une dizaine d'années, j'ai étudié à Nalanda. Et donc, c'est une communauté de vie pour des moines. Et en même temps, c'est un centre d'études qui est ouvert aussi pour des moniales ou pour des laïcs.
Un centre d'accueil, oui. Mais vous voulez, vous, créer aussi un autre institut, plus tourné vers des sœurs, vers des moniales.
Voilà. Oui, depuis assez récemment, en fait.
Oui.
Depuis assez, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas évident de créer ces communautés monastiques un peu à partir de rien. Il faut les créer nouvelles.
Pour des questions administratives, à cause de la laïcité française ou bien...
Pas forcément, non, pas forcément. C'est juste, il faut tout organiser. Donc, il n'y a pas de modèle existant. Il faut le créer, surtout. Hein, il faut créer la communauté. Et donc, nous avons un projet depuis l'année dernière.
Et vous sentez qu'il y a une demande?
Et je pense qu'il y a une demande aussi. Il y a une demande aussi du côté des femmes qui ont besoin de modèles féminins et qui se retrouvent pas forcément dans un monde, il faut dire quand même, qui est très masculin et qui demande, qui sont contentes d'avoir un modèle, une communauté de femmes aussi pour se retrouver.
Surtout qu'on parle beaucoup des violences faites aux femmes et des féminicides actuellement.
Oui.
Et donc là où on peut trouver, comme dit Stéphane Martin, ce que certains connaissent parmi nos auditeurs, le petit traité de la joie, consentir à la vie. La résilience, c'est pas toujours facile, et donc c'est à ça que vos convictions vous amènent, à créer une institution où chacun puisse trouver sa voie et se sentir bien.
Oui, exact. Oui.
L'éveil.
Oui.
Trouver sa voie, très bien. Vous avez apporté un livre, ou en tout cas vous conseillez à nos auditeurs un ouvrage.
Oui. Donc il y a un livre, en fait, un livre du Dalai Lama. Donc, il y a ce livre du Dalai Lama qui s'appelle « Aller au-delà de la religion ». Donc, comme dit sa sainteté, en fait, il dit « Ma religion, c'est la bonté ». Et donc... dans ce livre, en fait, Aller au-delà de la religion, sa vision, c'est qu'il y a besoin d'une éthique qui se démarque de la religion et qui convienne aux croyants comme aux non-croyants. Et donc, le monde a besoin d'une éthique basée sur la compassion, et c'est la clé pour un monde plus harmonieux. Et donc, il propose... en fait, il dit la compassion, c'est pas une affaire d'idéologie ou c'est pas du luxe, c'est une nécessité, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et donc, comme clé un peu qui peut réunir en fait toutes dans la société, toutes les personnes, qu'elles soient croyantes ou non croyantes, il propose comme base donc, une éthique autour de la compassion.
On dit souvent que la religion, c'est ce qui relie des hommes, mais puis trop souvent qui oppose à d'autres communautés. Vous montrez que ce n'est pas seulement ce qui oppose, mais ce qui peut être complémentaire. On dit aussi que la religion, c'est de relire des textes. Souvent, je pose à mes interlocuteurs la notion. Et la Bible, pour vous, c'est un livre inspiré qu'on peut...
Pour moi, la Bible, c'est l'histoire de Jésus. Et c'est un livre de mon enfance. C'est l'histoire de Jésus.
Dans le Nouveau Testament, mais il y a aussi tous les prophètes de la Première Alliance.
Oui, donc je ne connais pas trop. Pour moi, si on me dit Bible, je pense plutôt à Jésus.
D'accord.
Je n'ai pas retenu. C'est ce que j'ai retenu. Oui. Et donc Jésus, c'est quand même un modèle aussi, on peut dire, nous, ce qu'on appelle un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui est en route vers l'éveil et qui, en fait, donne sa vie aux autres. On a aussi ça dans le bouddhisme, l'idéal du bodhisattva. Et donc Jésus correspond parfaitement à ça.
Je pense que beaucoup des catholiques qui vont nous entendre seront d'accord avec vous.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup Chantal pour cet entretien.
Merci à vous.
Nous vous souhaitons beaucoup de joie et beaucoup de fraternité autour de vous et de réussir dans le monastère que vous avez l'intention de créer bientôt grâce à votre foi et vos convictions.
Donc merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité.
Et merci beaucoup au technicien qui nous a permis, à Christophe, qui nous a permis de réaliser cet entretien. À bientôt.
Au revoir, merci.